Voilà, on va continuer d'ouvrir l'écriture ensemble. J'aime bien les prédications au long cours, c'est-à-dire que j'attaque un thème et puis voilà, mais je le continue, je cherche. J'avais le credo toujours dans mes papiers, et puis j'ai tellement de papiers que je ne le trouve plus. Non. Voilà. Voilà, j'ai entamé tout un parcours sur le Saint-Esprit au travers des symboles, des images de l'Esprit. C'est un thème tellement vaste qu'on pourrait y aller jusqu'à la fin des temps. Tellement de choses à dire. Je crois en l'Esprit Saint. Voilà, c'est dans le credo, hein, je crois qu'il est Dieu. C'est la personne la moins connue dans le monde. Elle est reconnue, hein, les gens disent, ah ben celui-là, il n'a pas reçu l'Esprit Saint, sous-entendu. C'est pas une... c'est un petit peu dommageable pour l'Esprit Saint. C'est une personne pleine et entière. Il est Dieu de manière pleine et entière. Alors c'est parfois pas facile pour nous de cerner Dieu, Père, Fils et Esprit. Si je prie le Père, je prie le Fils et l'Esprit. Si je prie le Fils, je prie le Père et l'Esprit. Si je perds l'Esprit, je prie le Père et le Fils. Dieu est un. Et puis en même temps, voilà, il nous a dit qu'il y a une richesse en Dieu. Il y a une concertation, il y a trois personnes qui dialoguent, qui discutent. On n'est pas tout seul avec Dieu. Dans ce mystère de la Trinité, de la divinité. On a vu une première image qui était, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Dieu met comme un sceau, comme dans l'ancien temps, pour envoyer une lettre cachetée, quelque chose. Les gens avaient une bague avec leur armoirie, leur insigne, et puis ils trempaient dans la cire, et puis clac, c'était scellé. Seul celui qui devait recevoir le courrier en bout de piste devait les courriers diplomatiques, etc. On a vu le souffle, le vent, le rouar de Dieu, le pneuma de Dieu, comment Dieu souffle depuis la création. Comment il y a ce terme que j'aime bien, qui est la couvaison. Dieu, voilà, comme un œuf, il s'occupe de la terre, il s'occupe de notre vie. L'Esprit est comme une colombe. On a quelques textes hein, là-dessus. On a vu la dernière fois Dieu comme l'Esprit Saint est comme une source, un fleuve, un puits de l'eau vive, et puis que nous pouvons faire un pas, deux pas. On a vu un texte hein, où il était question d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins, jusqu'en haut du corps, et puis ensuite, voilà, être immergé dans l'Esprit. Beaucoup d'autres images. On va voir aujourd'hui l'huile, l'onction, et on verra plus tard le feu, la lumière, la nuit et la gloire, la pluie de la première de l'arrière-saison, le parfum, et puis le consolateur, l'avocat, le tuteur, l'interprète, l'exégète, l'aide. Ça fait 9 images de l'Esprit. Mais je suis sûr que si on peut en trouver d'autres, après le chiffre 9, ça fait bien. C'est comme 3, 7, voilà, c'est les chiffres qui sont un petit peu... Qui nous plaisent bien. J'aimerais prendre un texte avant de démarrer, faire une introduction sur le psaume 51. C'est pas forcément celui qu'on préfère. Mais bon, il y a des textes comme ça qui nous grattent un petit peu, qui nous interpellent. Et puis c'est quand même bien de les lire. « Psaume 51, verset 13. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Beaucoup de chrétiens pensent sauver un jour, sauver toujours. J'ai été sauvé il y a tant de temps, telle circonstance, c'était extraordinaire. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il ce matin? Est-ce que ce renouveau dans la relation avec Dieu demande toute mon attention? Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est jour après jour. Parce que sinon, l'Écriture dit, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va. C'est aussi une image. Hein. Et c'est simplement pour dire que l'image, le monde spirituel n'est pas un monde de bisounours. En ce moment, si vous suivez l'actualité, on parle des végétariens et puis des mangeurs de viande. Savoir dans ce monde qui est une proie, qui est à manger, puis qui est le mangeur, et nos sociétés doivent faire des révolutions coperniciennes pour savoir comment se situer. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi l'esprit bien disposé. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Quelle est notre conscience de notre relation avec l'Esprit Saint? C'est avec le Dieu vivant et vrai, hein, simplement. Mais le texte, là, voilà, nous parle de cette relation directe avec le Saint-Esprit. Trois fois dans ma vie, première année de conversion, j'ai eu l'impression d'avoir comme coupé une relation ou un cordon ombilical avec Dieu. Et puis là, une terreur m'a pris. Il me dit, si je perdais ce que j'ai reçu pour l'éternité, waouh, non. Je ferai tout. Seigneur, je veux marcher avec toi jusqu'au bout de mes jours. Et puis voilà, quelles que soient les difficultés de ma vie, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Après, quand on peut se débarrasser des choses anciennes devant Dieu, puis parfois nos vieilles réactions. Voilà, pouvoir retrouver cette joie, cette force. L'huile de l'onction, c'est une image. Alors après, voilà. L'onction, c'est être mis à part pour Dieu. On verra dans l'Écriture, il y a l'onction sur plein de choses. Sur des lieux, des sites, sur des choses qui sont croyantes à Dieu, sur des personnes. Sur les prêtres, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, sur les rois, les prophètes et tous les croyants du Nouveau Testament, tous les croyants de la Nouvelle Alliance. Il y a quelque chose à voir avec cette onction, cette huile de l'Esprit. Être mis à part pour le service. Chacun d'entre nous est mis à part pour le service de Dieu. Nous lui appartenons en propre. L'Écriture dit, nous sommes son peuple, son troupeau, son héritage. Il y a plein de choses. Mais l'onction de Dieu est là pour nous mettre à part pour Dieu. On ne le fait pas de soi-même. Dieu avance avec nous, puis là aussi il ouvre des portes. Pour le service du monde, hein, nos contemporains, au travers de proclamation de l'Évangile, service dans l'Église, service auprès de Dieu. Notre premier service, c'est déjà auprès de Dieu, Père, Fils et Esprit. Les lépreux avaient une onction d'huile quand ils étaient guéris. Ils allaient voir le sacrificateur qui le regardait, qui disait « Nickel !» Alors, il ne dit pas blanc comme neige, parce que sinon, ça ne marche pas bien. Mais il dit, voilà, tu es guéri, il n'y a plus de tâches sur toi. Et puis, Nouveau Testament, l'onction d'huile pour les malades. On prend un premier texte. Il y a une manière de lire l'écriture qui est la première mention. Quand quelque chose entre dans l'écriture, des notions nouvelles. Et on a une première histoire d'onction dans le livre de la Genèse, au chapitre 28. Une histoire un peu bizarre, extraordinaire. Jacob, petit-fils d'Abraham, son père lui dit, son père surtout lui dit, voilà, tu ne prendras pas une femme par ici, tu vas aller chez ton oncle, au-delà du Liban, en Syrie, et puis tu vas aller voir si tu trouves quelqu'un pour... comme épouse. Et puis, il s'en va, sans doute avec un petit peu de bagage. Genèse, chapitre 28. Jacob partit de Beersheba, s'en alla à Charan. Charan, voilà, c'est le pays de sa famille, c'est en Syrie. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Voici, une échelle était appuyée sur la terre, son sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient, descendaient par cette échelle. Voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi, ta postérité. » Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, septentrion, au Nord, au Midi, au Sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit, certainement, l'Éternel, YHVH, est en ce lieu. Moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu, car la ville s'appelait auparavant Luz. Une histoire. Hein, ça ne devait pas être très confortable d'avoir une pierre comme oreiller. Il a vécu une visitation de Dieu, une épiphanie, quelque chose extraordinaire, et puis il a vu cette relation entre le ciel et la terre. Et il en a été témoin, il sait qu'il y avait quelque chose de possible. Et Dieu lui donne des promesses. Et il a vu des anges qui montaient et descendaient. Il a reçu une parole prophétique. Voilà, Dieu lui rappelle ce qu'il a dit à Abraham, à Isaac. Voilà, continue, avance. Je suis avec toi. Puis tout d'un coup, il dit, c'est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. En Jésus-Christ, une porte nous est ouverte sur le ciel. Et ce n'est pas seulement des anges qu'on voit monter et descendre, c'est le Christ lui-même. Après, souvent, on dit qu'on radote un petit peu. Je dis, mon privilège, ma première année de conversion, j'étais dans mon lit le soir, et voilà, j'étais en conversation avec le Seigneur par l'Esprit. Et puis j'envoyais je dormais dans la salle à manger, un port avait un tout petit logement. Toute mon enfance, jusqu'à 18 ans, j'ai dormi dans la salle à manger. Dans un angle de la pièce, je savais que Jésus était là. Waouh ! J'allais à une réunion de prière, dans un coin de la pièce, je savais que Jésus était là. Ça n'a pas duré toute ma vie. Mais ça a duré quelques mois, puis je me disais, wow, Et quand quelqu'un apportait une parole de Dieu, une parole prophétique, je savais que c'était la parole de Jésus. C'est comme ça que mon esprit s'est ouvert aux choses de Dieu. Jésus monte et descend sur nous. L'Esprit Saint va et vient entre le ciel et la terre. Nous avons un privilège extraordinaire. C'est que les expériences qu'ont vécues ces pères, ces patriarches, ces hommes de Dieu, nous avons la possibilité de le vivre au quotidien. Il n'a pas vécu ça toute sa vie, hein, mais je pense que ce qu'il a vécu l'a marqué. L'a marqué pour le restant de ses jours. Nous avons le privilège d'avoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, non seulement sur nos vies, mais dans nos vies, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre intelligence. Et il y a un mouvement. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et Dieu nous communique à chacun tout ce dont on a besoin. Verset 20, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi, me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Je ne vais pas faire un cours sur la dîme. C'est quelque chose d'ancien. Avant la loi, Abraham l'a donné. Il a rencontré Melchisédek, ce roi un peu mystérieux, ce sacrificateur de Salem, de paix, de justice, de Jérusalem. Et il a dit qu'il lui a donné toute une partie de ses biens. Quand il y a une bénédiction de Dieu, au-delà de ce que l'on pouvait penser, non seulement ça délie notre esprit, mais ça nous détache des biens d'ici-bas. Et puis on se dit, waouh, donner à Dieu, c'est investir dans le royaume de Dieu. Waouh! J'aime continuer à investir. On a deux prières de ce type dans l'Écriture. Il y a celle de Jacob et il y a celle de Jaïbetz, 1 Chronique 4. Si tu me bénis et qu'il m'arrive que des choses de bien, je te choisirai pour Dieu. Recevoir, vivre de cette bénédiction de Dieu, de cette visitation. Plus grande bénédiction, c'est d'être en relation avec Dieu. Qu'entre la terre et le ciel et la terre, il y ait une relation au quotidien. Je ne sais pas si vous avez regardé les infos hier soir, une info que je suis depuis des années, les alignements de Karnak font partie des choses de l'UNESCO. Il y a entre 3000 et 8000 pierres. On pourrait les moindre. Jacob a pris son petit menhir et puis il l'a planté et puis il a dit, ouais, c'est ici une fondation. C'est ici la porte du ciel. C'est ici la maison de Dieu. Wow. Avoir des signes de reconnaissance dans nos vies et poser des choses. On peut le faire par notre confession. Seigneur, aujourd'hui, tu me bénis, tu m'ouvres quelque chose de nouveau dans le ciel. Je le confesse, je le pose dans mon cœur, dans ma vie, dans mon esprit, dans mon intelligence pour que ça compte. Parfois, je pose la question, hein, c'est quoi vos 10 paroles de Dieu? C'est quoi les 10 paroles qui vous a entraîné sur le chemin de Dieu, qui vous accompagne, qui ouvre des choses nouvelles. Il peut y en avoir d'autres, mais s'il y en avait au moins 10. En ce moment, je vais à beaucoup d'obsèques, sans doute avec l'âge. Hein. Et puis alors, à chaque fois, je me dis, mais voilà, comment est-ce que moi, j'aimerais choisir 10 paroles de Dieu, que ces 10 paroles soient lues le jour de mes obsèques, parce que c'est ça le plus important dans ma vie. Tout le reste, ça peut être intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est les paroles qui font d'une vie. Wow. C'est ici la maison de Dieu. Alors voilà, je ne suis pas bibliolâtre. Hein. Ma Bible, c'est un instrument de, je veux dire, parfois un instrument de torture pour elle. Parce qu'il y a les pages qui perdent, c'est gribouillé, c'est. Voilà. Sans être bibliolâtre, en tout cas, la parole vivante de Dieu. Wow. C'est ça mon héritage, c'est ça ma bénédiction. Parce que c'est là que je peux trouver le réconfort, l'aide, le soutien dont j'ai besoin. Chapitre 31 de Genèse, les versets 11 à 13. L'ange de Dieu me dit en son « Jacob ». Je répondis « Me voici ». Il dit « Lève les yeux, regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. » C'est comment Dieu a augmenté le troupeau de Jacob presque à l'infini, parce que... voilà. Son beau-père essayait de le flouer. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, retourne au pays de ta naissance. Jacob va rentrer dans la maison de son père, plus riche qu'il en était parti, avec toute une famille. Alors parfois, là, ça nous prend un peu à contre-pied, hein, avec deux épouses et concubines. Puis, il aura une douzaine de... voilà, donc, cet embryon des 12 tribus. Je suis le dieu de Bethel où tu as oint un monument. Quels sont les paroles de Dieu qui nous font entrer dans l'onction de Dieu. Pouvoir compter sur ses promesses. Lève les yeux, regarde, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Pouvoir prendre le temps de remercier Dieu pour l'onction qu'il nous donne. Et tous ces moments glorieux, pouvoir dire, voilà, Seigneur, je veux continuer avec toi. C'est quelqu'un qui rejoint, qui part d'un point pour aller à un autre. 15 kilomètres de là, Dieu l'a arrêté à Bethel. Il avait de l'huile avec lui. Alors on se dit, mais ça sert à quoi? Je peux alors peut-être à l'époque, les gens mangeaient des galettes, ils mettaient un petit peu de sel et un peu d'huile, d'olive. C'est le repas de la Méditerranée. Hein. Régime crétois, pour ceux qui veulent garder la ligne. L'huile d'olive est le fondement de la civilisation méditerranéenne. Tous ceux qui en possédaient, voilà, on secouait l'arbre, on les attrapait. Quand j'étais en Israël, j'ai vu un pressoir au sol, un espèce de creux dans le rocher. On met l'huile, puis il y a une petite goulotte, et puis il y a une autre cuve. Et puis on foule les olives, et puis on laisse l'huile reposer, puis ensuite on la récupère. Une autre technique, c'est de la mettre dans des grands paniers en osier. Pareil, on les écrase. On les filtre et puis ça sert aussi à stocker, à être vendu. C'était aussi un petit peu la monnaie de l'époque. Ça sert bien sûr pour la cuisine. Ça fait 53 ans que je fais la cuisine de l'huile d'olive. Quand j'avais 20 ans, j'ai dû complètement changer mon mode de vie et mon mode d'alimentation qui était très déséquilibré. Et j'ai découvert l'huile. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le beurre, hein. Beurre breton, salé, de sel. Ma fille Émilie, si elle a que du beurre sans sel, elle en rajoute parce que ça lui manque. Mais c'est vrai que voilà, c'est une belle image que cette huile. Pour l'éclairage, les lampes de l'époque, j'ai ramené de Nazareth. Ils offraient à tous les touristes une petite lampe qui a été fabriquée, et puis avec une petite mèche dedans, on met de l'huile d'olive, et puis voilà, ça sert à éclairer. Le chandelier dans l'ancien culte, que ce soit dans l'Arche de l'Alliance, dans le Temple, il y avait la menorah, cette arche à sept branches, et puis on verra plus tard, hein, là aussi, combien c'est un symbole important, et comment il y a des prophètes qui sont appelés les fils de l'huile. Et puis là, il y a quelque chose, c'est une image extraordinaire, que cette image de l'huile de l'onction. On pourrait en déviser jusque très très longtemps. Consécration spirituelle. On voit encore une image de l'huile. Le service du tabernacle. On prend un texte dans le livre de l'Exode. Voilà, j'ai suivi par ordre d'entrée. Un petit peu comme ça, comment est-ce qu'on voit apparaître cette huile de l'onction. Exode 27, les versets 20 à 21. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. De l'huile pure d'olive concassée pour entretenir les lampes continuellement. La menorah, le chandelier, brûlait jour et nuit. Pendant des centaines d'années, il a brûlé. Est-ce que l'onction de l'esprit brûle dans ma vie? Au quotidien? Et est-ce que j'ai envie de le vivre jusqu'à la fin de mes jours? Je poursuis, Exode 28. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron, les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar et Tamar. Tu feras Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et lui servir de parure. Verset 41, tu en revêtiras Aaron ton frère, ses fils avec lui, tu les oindras, tu les consacreras, tu les sacrifieras, sanctifieras, ils seront à mon service dans le sacerdoce. De l'huile pour le chandelier, l'huile d'onction des sacrificateurs. Nous avons un privilège d'être les continuateurs de ce service, de ce sacerdoce lévitique. Nous avons le privilège de pouvoir vivre cette onction au quotidien. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les rois, les prophètes avaient l'onction une fois dans leur vie. Nous avons le privilège, voilà, de pouvoir être remplis de l'esprit au quotidien. J'enverrai mon esprit sur mes serviteurs, mes servantes, sur mes fils, mes filles, qui auront accès à ma présence. On lit encore au chapitre 30, les versets 22. À 33, l'Éternel parla à Moïse et dit « Prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et de l'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. » Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu tu en moindras la tente d'assignation, l'arche du témoignage, la table, tous les ustensiles, le chandelier, ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, tous les ustensiles, la cuve avec sa base, tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron, ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël, tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme. Vous n'en ferez pas de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'onction de Dieu est quelque chose qui est saint et qui doit être préservé dans nos vies. Il dit quelque part, voilà, il n'est pas donné au chien qui retourne à ce qu'il a vomi, au cochon, enfin, l'onction de Dieu, quelque chose de saint. Et l'Esprit Saint est dans nos vies comme cette huile de l'onction sainte. Il m'arrivait quelquefois dans ma vie de me sentir en porte-à-faux dans ma relation avec le Seigneur. C'est des leçons qu'on n'oublie pas. Voilà, c'est comme un malaise. On se dit, mais il y a quelque chose qui clash, mais c'est quoi? Jusqu'à ce que la relation plénière soit rétablie. On poursuivra. Voilà. Parcours dans ces images de l'esprit, dans ces symboles. Il y a une grande richesse dans cette image de l'huile de l'onction. Parce qu'il y a sur toutes les offrandes du culte, l'onction royale, l'onction prophétique. C'est un thème qui est très très riche. On va rendre grâce ensemble. Père Céleste, merci de nous donner de faire vivre dans notre être entier toute cette révélation de ton esprit. Merci parce que dans le dernier jour, tu répands ton esprit sur toute chair, tes serviteurs, tes servantes. Voilà pour qu'il y ait des songes, des paroles prophétiques, une vie spirituelle. Merci pour cette onction de l'esprit, aide-nous à la recevoir, à la garder, à la développer, à la répandre aussi à ceux qui sont autour de nous. Merci pour cette huile d'olive sainte, sanctifiée, ce mélange aromatique que tu poses sur nos vies. Merci pour ce parfum de bonne odeur qui est notre vie sous l'onction de l'Esprit. Amen.